écoutez la web radio du Off en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose Radio. La web radio du Off.
La victoire en chantant nous ouvre la... Pardon, les micros étaient ouverts. Décidément, mon patriotisme cocardier l'aura emporté pendant les pauses entre les interviews auxquelles, sur lesquelles vous nous rejoignez, chers amis d'Osmose Radio. Aujourd'hui, on parle encore de la programmation du festival Off 2021 en cette dernière semaine qui s'étiole et durant lesquelles les artistes courageusement continuent à se produire sur scène pour partager quelque chose avec vous, avec ou sans passe sanitaire, chers amis. Et c'est notamment le cas du garçon que je reçois aujourd'hui, Quentin Morand, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous produisez dans un spectacle, en fait, qui est un diptyque, La Victoire en chantant 1914 ou La Victoire en chantant 1940. C'est pas tout à fait le même son de cloche d'une année ou l'autre, hein, mais on y reviendra. C'est joué jusqu'au 31 juillet au Théâtre Notre-Dame, rue du Collège d'Annecy, à 15h. Alors, Quentin Morand, vous avez rejoint la compagnie Aquaviva, du nom de Robert Aquaviva, qui est le metteur en scène du spectacle.
Raymond.
J'ai dit quoi ?
Robert.
Ah, j'avais noté R à quoi il
oui,
va.
Raymond.
Bon, décidément. Il me pardonnera, j'espère, hein. Ce sacré René donc Aquaviva qui disait qui a produit notamment en 2014 un spectacle qui était peu ou prou dans le même thème que celui que vous venez représenter au Festival Off 2021. C'était un spectacle qui s'appelait Guerre et chansons. Comment ça s'était passé à l'époque puisque vous étiez déjà dans la troupe?
Alors oui, donc le spectacle Guerre et chansons était en fait c'était les prémices de La Victoire en chantant.
D'accord.
Donc, en fait, c'est dans la prolongation. Et moi, j'étais à l'époque directeur musical sur cette pièce. Mmh. Donc, j'avais fait tous les arrangements pour un petit orchestre. J'étais au piano. Il y avait un trompettiste qui s'appelait Pierre Boulben, deux violonistes et une caisse claire. Et donc, voilà, on avait créé ce spectacle avec un petit orchestre.
D'accord. Et donc, c'était déjà des thèmes qui préoccupaient le metteur en scène et que vous aviez déjà porté sur scène dans le cadre notamment de cette année 2014 qui était un petit peu particulière puisqu'on c'était les commémorations du centenaire de la Grande Guerre qui ont duré jusqu'en 2018 et qu'on évoque d'ailleurs encore un petit peu, notamment par le truchement d'un spectacle comme le vôtre, un spectacle pour lequel je ne vous cache pas que j'étais allé un petit peu à reculons parce que il y avait un côté un peu cocardier a priori. Je ne dis pas dans le spectacle, mais dans la communication qu'il y avait autour du spectacle, qui ne me convenait pas du tout. Et il y a même des erreurs que je considère être des erreurs factuelles. Par exemple, quand on parle de la jeunesse de 1914, qui allait dans un grand élan d'enthousiasme faire sa fête au Vilain Bosch. Alors c'est vrai qu'elle avait été un peu lobotomisée par la propagande, mais faut pas croire tout ce que nous a raconté la propagande de l'époque. On sait aujourd'hui par des travaux d'historiens que la jeunesse de 1914 n'y allait pas de gaieté de cœur dans les tranchées, justement. Mais bon, il nous en est resté cette image des défilés sur les Champs-Élysées, etc. Donc je ne peux pas en vouloir au metteur en scène d'avoir voulu travailler à partir de ça, mais tout ça m'a gêné de prime abord. Et une fois installé dans la pièce, une fois en voyant vous et tous vos camarades, comédiens et chanteurs et musiciens, prendre le sujet à bras-le-corps et le porter au nu, alors là je suis ressorti enchanté. Donc rien que pour ça, bien joué, parce que j'ai un sacré mauvais caractère, donc pour arriver à me retourner comme ça, il fallait le faire. Mais justement, comment s'est passée la mise en scène, le travail en amont, pour justement éviter ce côté cocardier et en même temps donner à entendre, pas forcément une réalité historique, on n'est pas là dans un spectacle historique, mais au moins donner à entendre un ressenti par rapport à la musique que les gens pouvaient écouter à l'époque?
Ben en fait, il se passe plusieurs choses parce que c'est un montage de textes de grands auteurs de ces deux périodes-là, donc qui ont un regard sur le monde, je pense, très intéressant et très poétique. Vous parlez justement parce que vous avez 1940.
Alors, oui, pardon, j'ai omis de le préciser. Moi, j'ai vu qu'un seul des deux spectacles. Donc, il y en a un, c'est les jours pairs, un autre, les jours impairs. Moi, j'ai vu le spectacle sur 1940. Il me reste à voir celui sur 1914.
Et donc, justement, quand vous parliez de La Fleur au Fusil, où les gens partaient à La Fleur au Fusil, il y a un texte que nous, dans 1914, on utilise qui s'appelle L'Affiche. Et donc, dans ce texte-là, vraiment, il y a un enthousiasme. Tout le monde était mobilisé. C'était l'affiche de la mobilisation générale. Et voilà, c'est ces auteurs-là, en fait, qui nous ont inspirés, qui ont inspiré le metteur en scène pour cette mise en scène de ces deux spectacles.
D'accord. Et donc, bah, c'est vrai que c'était des ambiances à l'époque. Alors, pour le spectacle que j'ai vu, moi, c'est donc l'ambiance de la musique des années 30. Alors, on a le swing, on a des chansons un petit peu de bidas, mais qui sont un petit peu de... Enfin, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette musique de Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait d'excellent français, avec l'accent, la diction de l'époque, en tout cas. Et cette chanson, mais qui est nullissime, mais qui a tellement fait rire les gens de l'époque. Et moi, quand je l'ai découvert sur Internet, genre 70, 80 ans après, que forcément ben, on y reste attaché peu ou prou, même si on sait que c'est un peu c'est un, vraiment un truc de couillon, une musique qui a pas marché au pas, quoi.
Non mais c'est sûr, c'est ça qui est intéressant dans les musiques, c'est qu'il y a beaucoup de drôleries. En fait on se moque un peu, on se moque de la guerre un petit peu dans ces deux spectacles. On parle de l'absurdité de la guerre en fait, et des choses ironiques qui peuvent se passer. Donc les chansons, c'est le meilleur moyen aussi d'en parler comme ça, sous cet angle là. Effectivement, oui, c'est assez drôle, quoi.
Et alors, justement, bah, une drôlerie qui reste à être interprétée, et vous le faites avec tous vos camarades. Vous êtes une troupe de combien, en fait ? Parce que j'ai vu à peu près autant de garçons que de filles. Tantôt, vous chantez tous ensemble, tantôt, il y en a qui sont solistes. L'émotion passe à tous les instants, que ce soit la drôlerie, quand vous avez une collègue, par exemple, qui interprète un rôle de prostituée.
Oui, ça, c'est Marcel Aimé,
avec
ouais.
Beaucoup de gouailles que n'aurait pas renié Arletty, hein, je pense. Et sinon, un autre de vos confrères qui lui interprète là encore un poiré de l'époque,
un poivreau, ouais.
Ou aussi, ouais. Enfin, je pensais à ce garçon qui fait un défilé de mode.
Ah oui, oui, exact. Ah oui, bien sûr, bien
sûr. Parce qu'on sait que donc nos aïeuls pendant l'occupation n'avaient plus de moyens, enfin ne pouvaient plus faire réparer leurs souliers, et on a vu le retour des semelles en bois dans les rues de Paris à l'époque, de France et de Navarre d'ailleurs. Et du coup, ça donnait une démarche un petit peu particulière, et l'érotisme de l'époque s'en retrouvait un petit peu influencé. Et par conséquent, eh bien votre ami, votre collègue a glosé un petit peu là-dessus. Et donc il y a des tas de petites scénettes comme ça, différents tableaux qui sont souvent assez drôles. Aussi souvent assez émouvant, on y reviendra. Mais vous pourriez vous démener à danser, à chanter. S'il n'y avait pas des musiciens derrière vous, ce serait plus compliqué. Et sur le programme du OFF, on voit le nom d'une accordéoniste. En fait, il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs. Ouais. C'est une petite erreur, ça, qui s'est glissée. En fait, on a trois accordéonistes en alternance parce que c'est des super musiciens et qui ont aussi des concerts à droite et à gauche. Donc, on n'a pas pu... en avoir un tout le long. Donc maintenant, ils se partagent la scène à trois. Et donc, on a eu le premier musicien qui est venu, c'était Laurent Derache. Ensuite, on a eu Aude Giuliano, qui est marqué justement sur le programme du OFF. Et puis aujourd'hui, depuis déjà une semaine et demie, on a son frère Guy Giuliano, qui va nous suivre jusqu'à la fin du festival.
D'accord, donc trois accordéonistes, un instrument emblématique de la France pour certains, de l'époque pour tout le monde, j'en suis sûr, et qui accompagne fort bien justement tous ces chants que vous réinterprétez dans ce spectacle. Je disais qu'il y a aussi des moments assez émouvants, notamment je pense à ce rôle de prostituée un peu canaille qui est assez drôle, mais en fait qui intervient dans un contexte assez déprimant, toujours dans ce spectacle 1940, puisqu'il s'agit d'une file d'attente devant un magasin au moment des pénuries et du rationnement à l'époque.
Bah ça, c'est donc un texte de Marcel Aimé, qui est tiré du Passe-Muraille. Ça s'appelle L'attente, en attendant. Et cette prostituée est interprétée par Joséphine Toby. Et effectivement, c'est drôle comme ça. Mais bien sûr, si on voit le contexte, il y a quelque chose d'assez dramatique. Et c'est pour ça que c'est très, très bien écrit aussi.
Et nous y voilà justement pour la transition que je voulais faire, c'est-à-dire aller vers les textes qui auront influencé, parce que, évidemment, moi j'ai reconnu de prime abord des chansons, certaines que je ne connaissais pas, donc je ne les ai pas reconnues, certaines que je connaissais, du coup elles ont réveillé quelque chose dans mon imaginaire, mais il y a aussi des textes qui ont influencé tous ces tableaux, donc vous avez cité Marcel Aimé, et il y en a sans doute d'autres, et que ce soit pour 1914 ou 1940.
Exactement, oui. Ben, on a la célèbre l'affiche rouge aussi de Aragon.
Donc c'était Manoukian, les FTP, la main d'œuvre étrangère, voilà, qui s'était engagée dans la résistance française.
Exactement. Oui, donc on parle de la résistance. On a des textes d'Albert Camus, de Saint-Exupéry aussi au début, avec l'aviateur. On a vraiment des auteurs... Et dans 14, on a un super satire, enfin, de Alphonse Allais de l'époque.
Oh, Alphonse Allais qui était assez doué pour la satire et pour se moquer du monde. Oui.
Et justement, il a écrit un texte qui est absolument incroyable aujourd'hui. Il parle de la guerre bactériologique et des microbes, comment cultiver les microbes et en faire une arme de guerre au lieu d'utiliser les mitrailles, les bombes et d'aller envoyer tout le monde se faire tuer. S'adresse à Paul Desroulaides et lui dit « Mais j'ai trouvé une idée magnifique, on devrait cultiver des microbes dans des petits laboratoires. » Et donc aujourd'hui, ça a une résonance assez particulière.
Oui, effectivement. C'est un aspect qui fait froid dans le dos par rapport à l'aune de notre actualité récente ou moins récente d'ailleurs. Et donc, ben, il n'est pas la peine de faire des bombes qui coûtent cher pour exploser des pauvres petits soldats dont le sang rougiront le bout de tes petits seins roses, comme disait Guillaume Apollinaire à une de ses aimées dans une lettre restée célèbre et qui, j'imagine, aura aussi influencé parfois le spectacle. Si ce n'est pas la lettre, ce sera au moins Apollinaire.
Non, mais si, exactement. Ce que vous avez cité, c'est Fabio Rich, un comédien aussi qui l'interprète sur le plateau.
J'en étais sûr, même sans avoir vu le spectacle. Quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment une création, comment dirais-je, qui réveille en nous ce qu'il y a de meilleur dans le patriotisme. Je veux dire que je crois que c'est une phrase qu'on attribue à De Gaulle. Le patriotisme, c'est quand on aime son pays. Le nationalisme, c'est quand on déteste celui des autres. Et par conséquent, ben, on peut se définir patriote, même si ce terme a été usurpé par les gens d'extrême droite. Et là, c'est pour ma part, je le regrette. Mais vous avez le talent de réveiller ce qu'il y a de meilleur dans cette conscience, dans cette joie finalement d'être français. On sait qu'on n'est pas parfait, on n'a pas forcément honte d'avoir lieu de notre histoire tant qu'on est capable d'en tirer les leçons. Et par conséquent, enfin ça c'est moi qui le dis, hein, ça ne vous engage en aucun cas, mais pour ma part c'est ce que j'ai ressenti. Par contre, il y a eu quelques bizarreries dans les choix de mise en scène, dans les choix en tout cas des tableaux qui ont été faits. Il y a un des tableaux de ce spectacle, La Victoire en chantant en 1940. Alors déjà ça sonne un peu comme une oxymore parce que en 1940 on s'est pris quand même une historique déculottée comme on l'a dit à l'époque. Et du coup, c'était un peu ironique, mais y a un aspect qui a été assez majeur dans l'histoire de France. Hein. Comme disent les journalistes en quête de sensations, un des aspects les plus sombres de notre histoire, eh bien, c'était la déportation des Juifs dans les camps, donc avec la complicité de la police française, par les autorités allemandes. Et vous prenez l'exemple d'Anne Frank. Et là, bon... Pourquoi pas ? C'est un exemple cohérent pour ce qui est de l'histoire de l'Europe, pas pour ce qui est de l'histoire de la France. Parce que Anne Frank était une juive hollandaise, elle était à Amsterdam. Et en France, ben, on a eu des Simone Veil, par exemple. Pourquoi ne va-t-on pas avoir parlé d'elle ?
Alors, oui, c'est vrai. En fait, on voulait que ce spectacle ne s'arrête pas aux portes de la France. Mmh. Et par exemple, en 1914, il y a un texte de Marquez, un Allemand. Donc, on essaye aussi de voyager. Il y a aussi dans 14 des textes anglais, notamment une chanson qui s'appelle « Tout le long de la Tamise ». Donc, on essaye quand même d'élargir au-delà des frontières, puisque la guerre, elle ne s'est pas arrêtée en France. Et voilà, il y a plein de pays qui s'y sont mêlés. Et donc, voilà pourquoi on a pris Anne Frank, pour avoir justement la Hollande et essayer un peu de naviguer dans les différents pays qui ont connu ces guerres.
Très bien. Et par conséquent, un petit voyage dans l'Hexagone et autour de l'Hexagone, puisque notre pays n'est pas isolé du reste du monde, loin s'en faut. Et on se réjouit parfois de l'influence qu'il a eue ou pas sur les pays alentours. Alors c'est un spectacle qui n'est pas vraiment une création pour le HOF, c'est-à-dire qu'il préexistait avant, mais dans sa forme actuelle, c'est la première fois que vous le représentez, c'est bien ça ?
Voilà, oui, exactement. Donc, comme je vous disais, voilà, Guerre et Chanson étaient les prémices de ce spectacle. Mmh. Et ensuite, on a décidé pour le HOF, en fait, de le déconstruire et d'en faire deux épisodes, voilà, pour bien distinguer les deux guerres. Avant, c'était un seul et même spectacle avec les deux guerres qui s'enchaînaient. Et on a décidé pour le HOF de séparer 14-18 et 39-45. Voilà, donc on a rajouté des textes, on a rajouté des chansons, on a rajouté de la mise en scène, de la forme, pour arriver à ce que ces deux spectacles, ces deux périodes, ces deux fresques se tiennent chacune l'une et l'autre toutes seules.
Très bien, mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est plus judicieux, pour autant que je puisse en juger, parce qu'un spectacle en entier sur ces deux thèmes fort riches, c'est peut-être un petit peu indigeste. Donc l'idée du diptyque, quand bien même on s'y trouve un peu confus, parce qu'il y a les jours pairs, les jours impairs, on peut se gourer de spectacle, finalement, c'est pas grave.
On viendra voir le suivant juste après, il n'y a pas de souci.
Et on vous souhaite de le faire tourner après en France, en Navarre, voire même ailleurs, hein, puisqu'il peut intéresser en tout cas dans la sphère francophone,
vous
ça c'est sûr.
Pas si bien dire, parce qu'on a, déjà une tournée de prévue en Chine.
Oh.
On a des tournées comme ça qui commencent à se profiler à l'étranger parce que les surtitres sont faits en anglais et dans différentes langues. Et comme la musique est vraiment au cœur du spectacle, ça intéresse beaucoup les étrangers aussi.
Ah, c'est génial, franchement, bravo, je suis content pour vous. Et je fais un petit aparté. L'autre jour, à Grenoble, au musée de la Résistance, j'ai vu une très bonne exposition sur les bals clandestins pendant la guerre. Alors nous, pendant le confinement, il y a eu aussi quelques bals clandestins ou quelques rave parties qui ont été largement réprimés. Eh bien, à toute proportion gardée, c'était aussi le cas pour nos aïeux qui allaient guincher le swing au son de l'accordéon dans la cambrousse, en fait, quand ils n'étaient pas embêtés par les gendarmes. Et j'ai eu quelques réminiscence de cette exposition fort intéressante en voyant votre spectacle, justement, puisque les musiques s'y prêtaient, oui, oui, etc. Donc, si pour ceux qui nous écoutent du côté de Grenoble ou qui comptent y aller en vacances, vous pouvez faire double emploi en allant voir et le spectacle La Victoire en chantant et cette expo La Victoire en chantant 1914 ou 1940, jour pair ou impair, c'est jusqu'au 31 juillet au Théâtre Notre-Dame à 15h. Merci Quentin Morand de nous parler de tout ça.
Merci, merci.
Et puisque je vous ai posé la question en préparant cette interview de savoir quelle musique conviendrait le mieux à résumer les deux spectacles, eh bien vous m'avez suggéré une musique qui s'appelle La Fleur de Paris et que je vous propose d'écouter tout de suite.
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien la dorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir elle a fleuri, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous.
Elle a fleuri de partout, elle a fleuri du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, le blanc rouge, c'était vraiment à l'avant-tour, fleur de chez nous.
Parababab, tsam, tsam.